Il est 8h.
Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend. Et puis, dans moins d'un an, ce sera mieux encore.
Les régionales seront un révélateur. Le Rassemblement national peut-il briser son plafond de verre électoral ? S'interrogeait Nicolas Bétou dans son édito politique à l'instant. En tout cas, en région sud, Marine Le Pen et Thierry Mariani battaient la campagne en terrain conquis hier. Nous verrons aussi ce que peut changer ce scrutin pour les trains régionaux. Les concurrents de la SNCF se font attendre sur les lignes de TER, mais de nouveaux appels d'offres sont en préparation. L'Iran se choisit aujourd'hui un nouveau président, à moins que le choix ne soit devenu évident hier avec 3 désistements de candidats. Et puis le guide Michelin, il décerne aussi des étoiles vertes pour ceux qui défendent une cuisine durable. Rencontre avec un chef cuisinier qui veut recréer de la biodiversité parmi les races de vaches. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À l'avant-veille du premier tour des régionales, quels sont les véritables rapports de force ? Jérôme Fourquet en connaît les dessous et les ressorts. Le directeur du département Opinion à l'IFOP est notre invité. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Combien seront-elles au soir du premier tour dimanche ? Ces régions dans lesquelles le Rassemblement national est en tête. De l'Occitanie à la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val-de-Loire au Grand Est, les sondages évoquent 6 à 7 régions. On verra dans un quart d'heure ce qu'en dit Jérôme Fourquet. La certitude est pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, ce n'est pas seulement le premier, mais le second tour qui pourrait être favorable au parti de Marine Le Pen.
Et c'est avec ces chiffres d'intention de vote en tête qu'elle est allée soutenir Thierry Mariani hier dans le Var, Frédéric Michel.
Bonjour Marine. Tu as un petit document pour dimanche ?
Sur le marché de Sifour-les-Plages, tract à la main, Marine Le Pen et Thierry Mariani déambulent au milieu des étals.
Il faut absolument que tout le monde se mobilise.
En terrain conquis.
On a besoin de vous.
Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Ici comme ailleurs. Et à dimanche ?
Les gens sont prêts, j'espère. Et de toute façon, on a tout essayé. À Béziers, ça va très bien. À Fréjus, ça se passe très bien. Pourquoi ça ne se passerait pas ici ?
Tous les sondages et enquêtes d'opinion sont favorables aux candidats de la droite populaire et du RN. L'heure est donc à la mobilisation. Thierry Mariani.
Notre message aux électeurs de cette région, il est simple. Il est de dire que cette fois, votre vote peut tout changer.
Aux dernières élections régionales, Marion Maréchal Le Pen, alors candidate, était arrivée en seconde position. Aujourd'hui, les sympathisants RN croient l'alternance possible.
Marion avait attaqué, là il faut finaliser. Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend, on les attend. Et puis dans moins d'un an, ce sera mieux encore.
En ligne de mire, évidemment, la présidentielle. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Et si l'on a beaucoup parlé de sécurité ou encore des questions sanitaires pendant cette campagne, l'une des compétences qui mobilise le plus dans la pratique les régions et leur budget, ce sont les transports, notamment les trains du quotidien, les TER. On le sait, les trains de la SNCF s'apprêtent à cohabiter avec ceux d'autres compagnies ferroviaires.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Spécialiste transport d'Europe 1. L'ouverture à la concurrence, on en entend parler depuis longtemps, mais on ne la voit pas venir.
Oui, c'est vrai qu'après la réforme ferroviaire qui avait valu une grève historique de plus de 2 mois en 2018 et la forte volonté affichée par plusieurs régions, eh bien les premiers effets concrets de l'ouverture à la concurrence se font attendre. Le gouvernement avait d'abord tenté avec les lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Résultat, un seul candidat, la SNCF. Et pour le premier appel d'offres en région sud, l'étoile de Nice, là encore, la SNCF serait seule en lice. Une situation qui va évoluer dans les mois qui viennent, selon Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet SIA Partners, principalement parce que ce processus est long et très réglementé.
Ça prend du temps parce qu'il y a des gros dossiers à constituer et qui doivent être remis aux différents candidats pour expliquer les données de trafic, le chiffre d'affaires passé, les contraintes d'exploitation, etc. Donc c'est des dossiers de milliers de pages. Et puis il y a aussi un aspect tactique, c'est comment l'ensemble d'un marché TER régional, on le découpe en plusieurs lots, puisqu'en général, la mise en concurrence se fait lot par lot. Donc on découpe les lignes pour mettre en concurrence chacune d'elles.
Pas certain que le préavis de grève qui vient d'être déposé par la CGT Cheminots pour le 1er juillet prochain soit le meilleur produit d'appel pour inciter les régions à continuer à choisir la SNCF.
Merci Aurélien Fleureau. Emmanuel Macron au Mont-Valérien aujourd'hui pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle il y a 81 ans. Le président sera aux côtés de Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer qui avait débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, ainsi que par Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération.
8h05 sur Europe 1. Un nouveau développement dans l'affaire Robert Boulin, 42 ans après sa mort.
Oui, sa fille assigne l'État pour faute grave face à ce qu'elle considère comme un manque de travail de la justice. sur les conditions du décès de celui qui était ministre du Travail quand on l'a retrouvé en octobre 79 dans un étang de la forêt de Rambouillet. Selon Fabienne Boulin-Burja, l'enquête, rouverte en 2015 pour assassinat et enlèvement, n'avance toujours pas.
J'espérais, il y a 5 ans et demi, quand il y a cette nouvelle plainte qui a été acceptée, que la justice allait se ressaisir et me donner toutes les chances de connaître enfin la vérité sur les causes de la mort de mon père. Bon, il ne se passe pratiquement rien. On nous dit oui, c'est très bien, c'est très légitime aux demandes, mais on n'y accède pas. Donc ça fait quand même 42 ans, est-ce qu'il faut que j'attende encore 20 ans ? Quand mon père était ministre en exercice, il a été résistant, il a été maire, il a été député pendant 20 ans. C'était un homme droit, hein, bien qu'on essaye de salir pour justifier toujours le suicide. Et donc, il faut que la vérité passe dans le dossier Boulin. Voilà, ça suffit, cette mascarade.
Fabienne Boulin-Burja, jointe par Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe. C'est aujourd'hui que l'Iran et ses 60 millions d'électeurs votent pour un nouveau président qui succédera aux 8 années de mandat d'Hassan Rouhani. Alors hier, dans ce même journal, on parlait de 7 candidats. Il n'en reste plus que 4 après des désistements.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Téhéran, envoyé spécial d'Europe 1, et vous êtes devant un bureau de vote. Ils ont ouvert il y a 3h30 maintenant.
Déjà 3h30 de vote avec une intention pure et divine. C'est la consigne laissée par le guide suprême. Le vote se passe ici dans une mosquée d'un quartier plutôt conservateur et ça correspond parfaitement aux attentes de cette électrice.
Nous avons besoin de nos valeurs traditionnelles et d'une économie plus forte. Pour notre bien, religion et économie doivent se compléter. Aucun de ces deux grands thèmes ne doit être laissé de côté.
Ce qui est laissé de côté, ce sont certains courants, pas de modérer un seul réformateur encore en course après la série de désistements, mais ça ne gêne pas Hassan.
Tous nos problèmes, ils viennent du gouvernement sortant. Il y a beaucoup de critiques contre M. Raisi, beaucoup de critiques, mais je pense qu'il est capable de régler nos problèmes, en particulier nos problèmes avec les autres pays.
Car là est la vraie attente des Iraniens, trouver un moyen de lever les sanctions internationales. Et pour y arriver, là aussi, l'intention doit être pure.
Jean-Sébastien Soldaini en direct de Téhéran pour Europe 1. L'affaire avait agité l'été 2019, la mort par noyade d'un jeune homme de 24 ans à Nantes, Steve Maya Canisso, son corps repêché dans la Loire un mois après sa disparition lors de la fête de la musique. On en parlait dans le journal de 7h. L'analyse de son téléphone montre qu'une opération de police ce soir-là pour disperser les fêtards au bord du fleuve coïncide bien avec le moment où le jeune homme qui ne savait pas nager est tombé à l'eau. Et puis ces nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à l'envoi d'engins incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Il s'agit du deuxième accrochage entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu d'il y a moins d'un mois.
Vous restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. Du gros rock, oui, un festival métal en visio. Ça va décoiffer quand même, nous promettons. À tout de suite. Petit problème de jingle, c'est pas très grave, c'est pas l'essentiel. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 8h10 et c'est l'heure de la suite du journal avec François Geffrier, une suite du journal en musique. C'est presque aussi bien que les jingles.
Metallica, vous l'avez reconnu Mathieu, à l'affiche du Hellfest 2022. C'est un événement colossal hein, et le plus grand festival de métal en France. N'était pas peu fier de l'annoncer il y a quelques heures. Ce sera le retour des vrais concerts avec du public dans un an donc. Car pour ce qui est de l'édition 2021, elle commence bel et bien aujourd'hui, mais les fans devront la suivre à la maison, sans vidéo.
Pour que la puissance du métal soit tout de même au rendez-vous, les concerts ont été enregistrés dans les conditions du live sur le site de Clisson en Loire-Atlantique, dans le plus grand secret. Mais Charles Guyard y était pour Europe 1.
Pour Twiggy, chef de la production au Hellfest, la course contre la montre a pris fin mi-mai. Lorsqu'en pleine crise Covid, les 9 groupes invités ont enfin pu enregistrer leur concert directement sur scène.
Salut Clisson.
Pour les Français, pas de soucis logistiques. Mais pour d'autres, comme les Ukrainiens de Ginger, il a fallu notamment s'isoler une semaine complète avant leur show d'une heure et demie. Cela peut paraître démesuré, mais pour la formation, retrouver la scène valait bien ce sacrifice.
Spending 7 days in quarantine.
Pour nous, effectivement, on a une quarantaine de 7 jours, mais c'est comme des camps de vacances pour voyager...
jusqu'à Clisson. On est arrivé à l'aéroport. Il y a eu quelques papiers administratifs à remplir auprès des ministères étrangers, Ukraine, des ambassades. Pas de problème plus que ça.
Pas de problème non plus de jouer devant personne, même si Laura Cox l'avoue, c'est un peu déstabilisant.
Bon, on était tout seul au milieu de nulle part. C'est plus dur parce que le public, l'énergie te porte. Là, il faut se porter tout seul en fait. Donc je m'imaginais avec le public devant moi en train de passer une bonne soirée.
Un public qui pourra donc voir gratuitement ces 9 shows inédits du 17 au 20 juin sur Arte Concert.
Et puis c'est important de le savoir, il existe une journée mondiale de la gastronomie durable et c'est aujourd'hui.
Oui, et Europe 1 a choisi de vous raconter comment les produits locaux sont en train de supplanter des ingrédients parmi les plus prestigieux à la carte des restaurants, au point que le combat de certains chefs étoilés n'est plus dans l'assiette mais dans le pré. Reportage à Vendôme dans le Loir-et-Cher, Pierre Herbulot.
Dans un pré, à l'ombre d'un arbre fruitier, une petite vache à la robe marron clair, la plus grande fierté du chef Guillaume Foucault.
Alors cette vache, en fait, qui habitait nos territoires, a disparu dans une époque où il y a eu un schéma de sélection qui avait en fait des intérêts qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui, en fait.
La productivité plus que la qualité, un non-sens pour cet amoureux du perche qui s'est fixé une mission, sauver celle que l'on appelait il y a quelques décennies la percheronne.
Je pense que c'est intéressant de pouvoir se dire que notre gastronomie, elle a été ce qu'elle est, certes par rapport au talent des chefs, mais aussi, et on l'oublie peut-être souvent, par la diversité, la grande diversité des terroirs que l'on peut avoir en France et de ses richesses.
Pour faire renaître la race, le chef a mis la main sur de vieilles cartes postales et archives qui décrivent la percheronne. Il a sélectionné les bovins les plus proches physiquement, les a fait s'accoupler tout en les nourrissant avec des pommes et des poires de variété locale. À chaque nouvelle génération de vaches, le code génétique se rapproche un peu plus de celui de la race éteinte. Une démarche aujourd'hui récompensée par la nouvelle étoile verte du guide Michelin, explique son patron Gwendal Poulenec.
Ça peut aller de la valorisation de leur territoire, de leurs producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs. Et c'est aussi une occasion de remettre en avant ces découvertes ou ces redécouvertes d'un patrimoine agricole.
En plus de cette distinction, c'est désormais un label que vise le chef Guillaume Foucault, une AOP, voire même une reconnaissance officielle de race. La vitrine d'un terroir qui pourrait même doper le tourisme, comme la célèbre vache de l'Aubrac.
Pierre Herbulot qui ne rate aucune étoile du Michelin sans discrimination de couleur, ni rouge ni vert.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité Jérôme Fourquet, le politologue de l'IFOP. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP.
Bienvenue à vous et bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
À l'avant-veille du premier tour du scrutin régional, le taux d'abstention annoncé est vertigineux. Est-ce que ce sera un ou le fait politique majeur ?
Alors ce sera assurément un des enseignements importants de ce scrutin. Bon, hélas, un peu comme dans tous les scrutins, on le commentera 5 ou 10 minutes en début de soirée. Et puis ensuite, de manière assez légitime, on commentera et on s'attardera sur les rapports de force, les performances de telle ou telle tête d'affiche dans leur région respective. Mais ce taux d'abstention nous dit quand même, risque de nous dire beaucoup de choses sur le rapport des Français à la politique. D'après les derniers chiffres de l'IFOP, on estime la participation à 40%, c'est-à-dire en retrait de près de 10 points par rapport au dernier scrutin régional de 2015. Et on rappelle qu'au début, lors de la première élection régionale, en 1986, on était encore sur des taux de participation de l'ordre de 65 à 70%. Donc on mesure, en une quarantaine d'années, le recul opéré. Alors on a des tendances de fond, tout ça ne date pas de 3 à 4 ans, bien évidemment, mais qui se sont sans doute accélérer sous ce quinquennat.
Alors lesquels ? Parce que vous dites ce n'est pas, ça vient de loin, mais il y a une accélération. Est-ce que Jérôme Fourquet, de plus en plus de citoyens estiment par exemple que les alternances successives ne changent rien, que les politiques, qui le pensent à tort ou à raison, n'ont plus parfois les manettes ?
Alors je pense que c'est là le ressort principal de cette abstention. Nous on le voit bien, et les candidats qui font campagne souvent se voient rétorquer si vous ne pouvez rien pour moi, eh bien moi je ne peux rien pour vous, donc je n'irai pas voter dimanche. Donc c'est cette idée, comme vous l'indiquiez, que le politique n'aurait plus les manettes ou n'aurait plus la capacité à transformer ou à changer les vies de nos concitoyens. Donc ça, c'est l'ingrédient de base qui s'est installé depuis toute une longue période. À cela s'ajoutent d'autres phénomènes peut-être plus récents liés à la période actuelle ou plus contemporaine. l'avènement d'Emmanuel Macron et la mise en place progressive de ce qu'on a appelé le nouveau monde ou le nouveau paysage politique brouille encore un peu plus les repères qui restaient, les clivages. Et historiquement, les régionales, qui sont les élections qu'on qualifie d'intermédiaires en sciences politiques, avaient une fonction première qui était de désigner des exécutifs régionaux, mais il y avait aussi une dimension très nationale. Et souvent, c'était une occasion qui était saisie par une partie des électeurs pour envoyer un message, souvent une claque. Soit au sortant, soit au pouvoir
Bien
en place
sûr,
au niveau national.
Mais vous voulez dire que là, il n'y aura pas de lecture nationale de ce scrutin régional ?
Alors, il y aura une lecture nationale, mais historiquement, elle s'inscrivait dans un balancier gauche-droite, mm-hmm. et donc le parti qui était au pouvoir au niveau national était sanctionné dans les élections locales. Et donc, ça nourrissait une forme de participation, souvent de l'opposition, pour aller manifester son mécontentement. Là, aujourd'hui, le pouvoir en place au niveau national, la République En Marche, ne dispose d'aucun sortant dans les régions. Et donc, ce levier, ce mécanisme qui était assez utile pour susciter de la participation, ne va pas fonctionner.
Ah, c'est intéressant, Jérôme Fourquet. Il y a aussi, est-ce qu'on peut dire que l'abstention aux élections locales confirme aussi que c'est d'abord et surtout le scrutin présidentiel qui compte ? Et vous le dites avec une phrase éloquente, qu'on comprend facilement, c'est le syndrome « allez me chercher le patron », dites-vous.
Alors c'est une autre tendance qui s'est développée ces dernières années, notamment sous ce dernier quinquennat, le fait que de plus en plus, la logique très présidentielle de nos institutions apparaissent. Et donc, les Français prennent acte de cette situation et disent « Bon, en fait, il n'y a qu'une élection clé, une élection reine, c'est la présidentielle, de là tout découle. » Et quand je dis que ça s'est accentué sous ce dernier quinquennat, notamment par, j'allais dire, un peu la force des choses et la nature des événements, qu'il s'agisse de la crise des Gilets jaunes ou de la pandémie, on a bien vu que toutes les décisions remontaient à l'Élysée, avec ce fameux Conseil de défense, et vous avez fait des émissions où 65 millions de Français attendaient la décision d'un seul homme pour savoir si on allait être confiné ou déconfiné. Et dans ce contexte-là, tout ça a renforcé l'idée qui était déjà assez ancrée de par nos institutions que la présidentielle est l'élection reine et que de là, tout va ensuite découler. Même si on voulait faire un petit clin d'œil sur l'actualité récente, on a vu par exemple que c'était l'exécutif qui avait donné son autorisation pour qu'un un match de tennis puisse se poursuivre. Et donc tout ça nourrit cette idée qu'il y a une clé de voûte et que tout dépend du reste. Et donc la lisibilité des collectivités locales, parce qu'on parle des régions, mais il y a un grand absent,
évidemment,
ce sont les départements qui sont passés complètement à l'as. Alors même qu'on a vu dans la crise du Covid que ces collectivités locales avaient un rôle tout
essentiel,
à fait essentiel.
Et elles ont tenu. Il y a des régions comme la région PACA, les Hauts-de-France et d'autres qui vont être particulièrement scrutées, notamment pour le score du Rassemblement National. Combien de régions sont véritablement à portée de main, Jérôme Fourquet, du parti de Marine Le Pen ?
Alors, il faut être assez prudent parce que c'est toujours un peu compliqué. Tout dépend quand même beaucoup à la fois du taux de participation qui va faire varier les rapports de force, et puis aussi, ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, à l'heure où on se parle, c'est de la configuration du second tour. Est-ce qu'on saura sur des dispositifs de front républicain, avec des listes qui se retirent pour faire barrage, comme on dit, au Rassemblement national, ou non ? Avec les éléments dont on dispose actuellement, les probabilités de victoire pour le Rassemblement national les plus fortes sont en PACA, autour de la candidature de Thierry Mariani. D'autres régions seront à observer, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France, avec, on rappelle quand même, aux dernières élections régionales en 2015, des très bons scores pour le Rassemblement national, alors le Front national à l'époque, au premier tour, mais qui ne s'étaient pas concrétisés. Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, avaient fait plus de 40% respectivement dans leur région au premier tour, sans pouvoir l'emporter au deuxième.
Quel est l'effet de la stratégie anti-Rassemblement national de l'exécutif et de la majorité qui tente, on l'a bien entendu, de rediaboliser le parti de Marine Le Pen en affirmant que c'est Marine la peste, en parlant de marque satanique? Il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui boxe, parfois certains le disent, dans le vide. Quel est l'effet de cette stratégie aujourd'hui ?
Écoutez, je pense que l'effet est assez limité, puisque c'est une recette qui a déjà été utilisée par d'autres depuis près de 40 ans maintenant.
Elle est éculée, c'est ce que vous nous dites.
Et elle montre ses limites, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché la progression du Front National. Après, pour essayer d'être équilibré et objectif, je pense que ça a quand même une vertu pour ceux qui défendent cette stratégie, c'est d'essayer d'entretenir encore un peu cette digue et essayer de faire en sorte, alors ça ne se verra pas au premier tour, mais qu'au deuxième tour, éventuellement...
Mais est-ce qu'on peut encore parler d'une digue, Jérôme Foucault? Est-ce que le Front républicain, est-ce qu'il est mort? Ou est-ce qu'il va ressusciter? Et sous une nouvelle forme, d'ailleurs assez technique, on l'entend, sans retrait pur et simple d'une liste, mais avec des ajouts sur d'autres listes pour ne pas que des personnes soient balayées pendant six ans.
Historiquement, le Front républicain se caractérisait par, ou se matérialisait par des retraits de listes. Là, on parle éventuellement de fusion, tout ça reste à voir. Donc on aura la confirmation de l'état de survie ou non de ce Front républicain mardi soir, quand le dépôt des listes sera officiel. On verra la stratégie. Il faut quand même rappeler que dans certaines régions, je pense notamment aux Hauts-de-France ou à PACA, la gauche avait pratiqué ce désistement républicain la dernière fois, ce qui avait eu comme effet mécanique de réduire à zéro le nombre d'élus régionaux de la gauche dans ces régions. Est-ce que ces partis sont encore prêts à jouer le jeu dans ces régions pour une mandature supplémentaire? Parce que tout
dans
ça
votre
participe...
question, il y a quand même une réponse. Hein. Être
verra,
totalement balayé, c'est une vraie... Est-ce qu'on va vivre, Jérôme Fourquet, la dernière étape de la recomposition, ou plutôt de la décomposition politique démarrée en 2017?
Alors, je cite souvent une phrase d'Édouard Philippe, ancien président, Premier ministre,
c'est un lapsus qui fait très bien.
Premier ministre, qui disait « la poutre travaille encore ». Et donc, on est dans la poursuite de ce processus de recomposition. On a vu ce qui s'était passé en PACA, avec ce rapprochement d'une partie d'En Marche avec la droite. Et bien évidemment, des résultats des régionales dépendront la suite des événements. Par exemple, à droite, est-ce qu'un leader, j'allais dire naturel, se dégage ou pas d'une victoire de la droite au régional? En cas de victoire du Rassemblement national en PACA, il y aura une pression énorme sur la droite. Une partie sera tentée de rejoindre ce Rassemblement national, d'autres, La République en marche. Et pour la gauche, idem, on regardera dans les régions où il y a des derbies, des socialistes ou des écologistes est en tête de la gauche. Et tout ça aura des incidences sur la poursuite du processus électoral pour la présidentielle.
La droite, justement, elle va attendre jusqu'à l'automne pour vraiment se ranger derrière un candidat. Et il y a eu cette proposition de commande, d'enquête pour connaître ou déterminer le mieux ou la mieux placée en vue de 2022. Drôle de méthode, quand même. Monsieur le sondeur, drôle de méthode.
Pour parler, sachant que l'enquête a été commandée à l'IFOP, donc... On est là sur un processus qu'on a appelé de départage, puisque la primaire a laissé de cuisants souvenirs à la droite. On s'en souvient avec des blessures internes qui étaient très vives. Et en l'absence d'un candidat naturel, les stratèges de la droite ont estimé que c'était la moins mauvaise des solutions. On verra si, comme en 2004, au moment des régionales, pour la gauche à l'époque, une candidate avait émergé. C'était Ségolène Royal qui avait battu Jean-Pierre Raffarin dans la région de Poitou-Charentes à l'époque. Et s'était imposée aux yeux de l'opinion de gauche comme étant la figure naturelle pour 2017. Est-ce qu'un tel scénario se produira? On aura la réponse assez prochainement.
Il y a aussi une ombre que certains pensaient qu'elle allait davantage peser sur Marine Le Pen, mais à l'aune de votre enquête récemment, elle pèse davantage sur la droite, c'est celle d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. Apparemment, elle ferait plus de tort à la droite.
Alors, le sondage qu'on a réalisé pour Le Point crédite Éric Zemmour, s'il se présentait, de 5,5% des voix pour la présidentielle au premier tour. Donc c'est un score en demi-teinte. C'est-à-dire déjà une belle performance pour quelqu'un qui n'est pas du sérail politique. Ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer comme ça à ce niveau-là. Autre élément de contexte, dans un paysage archipélisé à 5,5%, il se situe au niveau de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo, hein, ce qui est pas rien non plus.
Mais ce qui n'est pas flamboyant non plus. Hein.
Ce qui n'est pas non plus flamboyant, donc ça laisse ouvert toutes les spéculations sur sa décision. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il mord peut-être un peu plus sur l'électorat de la droite traditionnelle que sur l'électorat de Marine Le Pen. Et dans ce sondage-là, Marine Le Pen est quand même à 28%. Et donc, elle ne souffrirait pas à date de cette éventuelle concurrence.
On va conclure, Jérôme Fourquet. Vous venez de parler d'archipélisation. Vous l'avez théorisé dans un livre sur l'archipel français. Emmanuel Macron pourrait faire campagne sur la France apaisée en parlant de bienveillance. C'est possible sur un terreau d'une France aussi archipélisée que vous l'avez décrite?
C'est compliqué, mais il peut faire le pari. Il parle souvent de prendre son risque, de parler à cette France qui aspire au rassemblement, qui aspire à une certaine forme de quiétude, qui est sans doute minoritaire dans le pays aujourd'hui, compte tenu de l'état des tensions. Mais encore une fois, dans un paysage fragmenté, à rassembler déjà 25% des voix au premier tour vous donne accès au second tour, et c'est sans doute la stratégie qui a été retenue.
Ah oui, et qui va donc être mise en œuvre. Merci Jérôme Fourquet.
Merci à vous.
Merci pour cette analyse ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant, la météo, les infos et le journal de l'euro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, le rappel de l'info, Marion Calais.
Les conséquences des orages dans le sud-ouest hier soir. 15 000 foyers encore privés d'électricité à l'heure actuelle, principalement dans le Tarn et en Haute-Garonne. L'appel du 18 juin, 81 ans après, commémoration par Emmanuel Macron aujourd'hui au Mont Valérien, près de Paris. Le chef de l'État décorera notamment Léon Gauthier, 98 ans, dernier survivant du commando Kiefer qui a débarqué en Normandie en juin 44. Aux États-Unis, Joe Biden a salué hier soir une grande victoire pour les Américains, pour la troisième fois. La Cour suprême a refusé d'invalider l'Obamacare, la loi de Barack Obama offrant une couverture maladie à des millions de personnes. Et puis c'est l'un des plus gros événements organisés en France depuis le début de la pandémie, le Grand Prix de F1 sur le circuit du Castellet dans le Var. 15 000 personnes réparties dans trois tribunes. Premiers essais libres ce matin, le Grand Prix dimanche à 15h.
Merci Marion Calais, 8h32, Laurent Cabrol avec nous. D'un mot,
Marion parlait des dégâts causés dans l'ouest, dans le sud-ouest hier à cause des orages. Et bien ces orages se sont déplacés maintenant dans le sud-ouest. C'est sur la moitié sud, grosso modo, ça ira beaucoup mieux, alors que les orages maintenant se profilent sur les côtes de la Manche, sur les régions du Nord-Pas-de-Calais, de la Normandie surtout, et c'est dans ces secteurs qui sont de plus en plus violents dans le courant de la journée. Sur Paris, ce sera une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses orageuses. Les températures sont en baisse, c'est la bonne nouvelle, entre 23 et 29 en général, avec deux pointes, 33 et 34 à Lyon, Strasbourg et Grenoble.
Merci beaucoup Laurent. Le journal de l'euro, ce matin, nous sommes avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Sio, bonjour.
Pardon ?
Sio, c'est voilà, on dit bonjour comme ça en hongrois. Ah, j'essaye d'apprendre, mais c'est difficile.
Ah, bah, vous êtes là depuis quelques jours maintenant. On va démarrer, non pas par la Hongrie, mais par un moment très émouvant hier à Copenhague lors du match Danemark-Belgique.
Oui, à la 10e minute, le jeu s'est arrêté pour laisser place à des applaudissements nourris. Les 25 000 spectateurs ont rendu hommage à Christian Eriksen qui a frôlé la mort samedi dernier. Le joueur regardait le match depuis sa chambre d'hôpital. La Belgique, qui était menée 1-0, a fini par s'imposer 2-1. Elle est, la Belgique d'ores et déjà qualifiée hein, pour les huitièmes de finale, comme les Pays-Bas qui ont battu l'Autriche 2-0.
J-1 avant le deuxième match des Bleus, donc, face à la Hongrie. CEO, oui, Cyril.
Exactement. Demain à 15h, la France affrontera à Budapest l'équipe hongroise. Une séance à huis clos était programmée hier. Malgré les éloges entendus après la victoire contre l'Allemagne, Lucas Hernandez garde les pieds sur terre.
J'ai pas l'impression qu'on fait peur. J'ai l'impression qu'on est une très grosse équipe. On montre sur le terrain qu'on est capable d'arriver très loin. Maintenant, c'est à nous de continuer avec ce deuxième match face à la Hongrie. Ça sera pas facile parce que, bon, le stade il sera plein. Ça sera une autre bataille, ça sera une autre guerre et il va falloir répondre présent.
Les Bleus qui ont célébré l'anniversaire de Clément Langlais hier soir, 26 ans, dans une ambiance, vous l'entendez, festive. Assis aux côtés de Paul Pogba et de Karim Benzema, notamment, le défenseur s'est levé pour remercier ses coéquipiers.
Je tenais à vous remercier pour ce gâteau, pour tout ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et j'espère qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver, avec des victoires et quelque chose de très beau à la fin.
Super fait !
Et on poursuit notre trombinoscope des Bleus avec l'adjoint de Didier Deschamps.
Guy Stéphane nous présente aujourd'hui Kingsley Coman, heureux papa. Il a quitté hier la sélection pour rejoindre son épouse en Suède. Un aller-retour express, le virevoltant ailier sera rentré à temps pour le match. Tant mieux car à l'entraînement, mercredi, ses deux frappes surpuissantes en pleine lucarne ne sont pas passées inaperçues. Cela fait partie de sa panoplie, souligne Guy Stéphane.
Kingsley, c'est un véritable dribbleur, c'est un joueur plein de feintes, très exposé dans ses dribbles. Il a franchi un palier au Bayern, il est avec nous depuis plusieurs saisons. C'est un attaquant capable de marquer, capable de faire des passes décisives et donc très important.
Le programme de l'équipe de France, Cyril ?
À 13h45, une visioconférence de presse avec Didier Deschamps et Hugo Lloris en espérant que l'UEFA aura réglé les problèmes techniques. À 14h30, les Français s'entraîneront dans la très moderne Arena Puskas de Budapest.
Et on termine avec les matchs du jour.
À 15h, la Suède affronte la Slovaquie. À 18h, la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, recevra l'Écosse. Enfin, à 21h sur Europe 1, l'affiche britannique entre l'Angleterre et l'Écosse.
C'était donc CEO pour dire bonjour, Cyril de la Morinerie,
oui,
en hongrois.
Et pour dire au revoir, oui. Ishon Tlatlacha.
Ishon Tlatlacha.
Voilà, je l'ai écrit en phonétique parce que sinon...
Mais on va apprendre, c'est aussi ça l'euro, voilà, on va naviguer à travers les langues européennes.
C'est extraordinaire l'histoire en Hongrie, et d'ailleurs Jean-François Pérez vous l'a raconté ce matin avec les influences de Finlande et de Turc. On a cette langue qui n'a rien à voir avec les langues des voisins.
Eh bien, il fallait en parler, la culture hongroise aussi, qui est un grand pays de football historique, il faudrait le ressouligner aussi. Merci oui. Cyril Delamorinerie, c'était le journal de l'euro. 8h36 sur Europe 1, à suivre notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Notre alimentation varie en fonction des saisons et pour votre santé, il est temps de troquer la raclette contre de la pastèque.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, qui d'autre. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tous les matins des questions santé. Alors ce matin, mon cher Jimmy, nous sommes à quelques jours de l'été, à proprement parler, hein, même si on a déjà eu très chaud, et vous nous proposez d'adapter notre alimentation aux températures qui ont été assez élevées ces derniers jours.
Eh oui, vous avez dû vous en apercevoir, mais notre alimentation varie en fonction des saisons. Alors, à moins d'être un inconditionnel, la saison des raclettes et des fondues est définitivement terminée, laisse place au barbecue ou autres apéros. Alors, nous allons donc, en principe, naturellement, nous tourner vers des plats plus légers, moins gras et moins riches en sauce. C'est d'ailleurs le moment idéal, non pas pour faire un régime, mais plutôt ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. En clair, on fait un régime, mais on l'appelle pas comme ça, pour ne pas culpabiliser de craquer et de manger notamment des glaces.
Alors justement, quels aliments consommer par forte chaleur ?
Alors tout d'abord, il faut bien garder en tête que même lorsqu'il fait très chaud, il est important de manger suffisamment au risque d'être en hypocalorie et donc ralenti, voire même fatigué. Vous pouvez donc troquer votre fondue, Mathieu, non pas contre des merguez au barbecue, mais plutôt des aliments riches en eau comme le concombre, la pastèque, les tomates ou le melon qui sont d'ailleurs composés à plus de 90% d'eau. Vous pouvez donc allier l'utile à l'agréable. Essayez aussi de remplacer les viandes rouges par des viandes blanches comme du poulet ou des escalopes de volaille, par exemple. Je vous rappelle les recommandations. Pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, ce qui correspond grosso modo à l'énorme entrecôte que vous avez mangé hier, Mathieu. Et pour le commun des mortels, 500 grammes de viande, c'est 3 ou 4 steaks par semaine.
Non mais vous vous trompez, parce que honnêtement, ça vient assez naturellement, cette envie de pastèque, cette envie de concombre. On a tellement soif, on a tellement chaud. Bon, et du côté... Allez, je la tente. Du côté du dessert, on a le droit à quelque chose, Jimmy ?
Alors franchement, c'est la fin de saison et probablement d'une aventure, donc je veux vous garder un très bon souvenir de moi, donc faites ce que vous voulez. Par contre, allez-y mollo quand même sur les fruits qui restent malgré tout riche en sucre, mais vous avez le droit de manger par exemple des glaces qui ne sont finalement pas si sucrées de ça. Eh bien, pour ceux qui veulent ou qui devraient surveiller un peu leur ligne en vue de l'été, sachez que par exemple que les sorbets restent moins caloriques malgré tout et qu'il est possible de manger deux boules sans le cornet qui apportent des calories supplémentaires dont on peut se passer.
Quelque part, vous nous conseillez presque plus la glace que le cornet.
Eh oui. Les boules, c'est toujours mieux.
Eh ben, écoutez, en tout cas, il y a moins de... Non, on arrête là. On vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on va parler dans son rendez-vous, Jimmy ?
De yoga-thérapie. C'est la thérapie par le yoga. C'est une discipline médicale. Et vous allez voir que les études scientifiques prouvent que ça marche et que ça peut vous aider.
C'est vendredi. Hein. Merci, Jimmy Mohamed. Notre santé tous les matins sur Europe 1. Il est 8h40. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour, Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ah oui, j'ai oublié, je ne sais pas si Jimmy va vous écouter avec la même passion que vous l'avez, que vous avez eue hier en l'écoutant lui. C'est la suite.
Oui.
Ce matin, en deux minutes, nous allons tenter de réhabiliter le moustique.
Et oui, je voulais rétablir surtout certaines vérités. Je vais vous vanter leurs qualités. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Surtout après la chronique de Dr Jimmy. Et puis aussi quand on sait que le moustique est le plus grand prédateur de l'homme, avec 7 millions de morts par an, loin devant les requins, les lions ou les crocodiles. Mais rappelons déjà que les moustiques tueurs ne sont en fait qu'une minorité. Seuls 6% des 3500 espèces de moustiques se nourrissent de sang humain. Ce chiffre est encore divisible par 2, puisque seules les femelles sont hématophages. Alors dites-vous bien que chaque fois que vous croisez un moustique, hein, c'est pas obligatoirement une bête assoiffée de sang et porteuse de maladies. Je vais même vous prendre par les sentiments ce matin, en vous disant que si vous aimez le chocolat, vous aimerez forcément les moustiques. C'est une information qui est peu répandue en fait. Sachez qu'au même titre que les abeilles, les moustiques sont aussi des insectes pollinisateurs. Adeptes des petites fleurs inaccessibles aux gros diptères, les moustiques, avec aussi certaines fourmis, sont les principaux pollinisateurs du cacaoyer. Un monde sans moustiques signifierait donc un monde sans chocolat.
Voilà, ça déjà, ça a le mérite d'être dit. C'est un avertissement, pas de moustiques, pas de chocolat. Je ne la connaissais pas dans cet ordre-là. Vous nous dites que les moustiques représentent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
Absolument, car ils servent de nourriture à de nombreuses espèces. Sans moustiques, nous observerions un effondrement incroyable du nombre d'oiseaux, de poissons, de reptiles et de mammifères. L'entomologiste américain Bruce Harrison en est même venu à la conclusion que si les moustiques venaient à disparaître, le nombre d'oiseaux chuterait de plus de 50%.
Et on a parlé biodiversité, je vous renvoie vers Bruno David du Muséum National d'Histoire Naturelle qui était mon invité à 7h40. Les moustiques sont aussi les alliés de la médecine. Ça, c'est pour
et
Jimmy.
Oui, ça c'est pour le draguer. Afin de faciliter la remontée du sang dans la trompe, les femelles moustiques injectent un anticoagulant, sachez-le, particulièrement efficace, qui pourrait permettre de développer des traitements plus adaptés aux maladies cardiovasculaires. Et le moustique a même permis dernièrement de créer une seringue, dernier cri, dont la finesse permet de faire des injections beaucoup plus indolores. Enfin, en tout cas, ça passe mieux avec les patients.
Beaucoup plus
indolore. Alors, il a presque tout pour lui, le moustique, hein, de quoi aborder la saison estivale avec un autre regard sur lui.
Voilà, qui est dit, un peu d'équilibre rétabli, mais en même temps, on les aime pas pour autant à l'apéro. On va pas se mentir, Fanny Agostini, mais on a besoin d'eux au moins pour le chocolat. Merci Fanny.
Au moins.
Notre planète, au moins, on l'a bien écouté. Évidemment, la biodiversité en jeu essentiel. Encore une fois, écoutez 7h40, Bruno David, il était passionnant. 8h43 dans un instant, Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Mathieu.
Et oui, bonjour ma chère Julie, bonjour chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité ce matin, c'est bien sûr les régionales. Demain, vous le savez, les Français votent pour le premier tour, c'est très attendu.
Dimanche, oui.
D'après les estimations, on le sait, c'est pas les Français, c'est 17 Français qui vont aller voter pour le premier tour. Tous les autres, on vous l'annonce, vont pique-niquer, boire des coups en terrasse ou faire du shopping. C'est l'élection qui, sachez-le, mobilise le moins de gens depuis l'élection de Miss Saucisse de Morteau de 1974, qui avait réuni, tenez-vous bien, seulement 22 votants. Voilà. On est carrément en dessous, Julie, en dessous. Ouais. Après, il faut admettre que le gouvernement a pas tellement communiqué dessus, c'est vrai, mais c'est normal. Quand tu sais que tu vas te prendre des claques, tu prends pas un mégaphone pour faire venir des gifleurs supplémentaires. C'est assez logique, on les comprend.
Oui, oui. Hein.
Et puis l'autre info. L'autre info, c'est le procès Big Malion. La procédure la procureure a requis 6 mois de prison ferme et 3 750 € d'amende contre l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy.
Oui, mais il n'y a pas de quoi. Attendez, qu'est-ce que... Non, mais parce qu'on parle de moi, donc j'interviens, vous permettez, M. Béliard, plutôt faire les gros yeux. Écoutez, j'ai demandé, sachez-le, puisque vous voulez des infos sur Europe 1, en finir avec cette histoire, donc j'ai dit OK, hein, j'ai laissé 5 000 € sur le bureau du juge, et je suis parti. Oui, mais écoutez, oui, Mme Julie, oui, j'ai, oui, 5 000. Oui, mais j'avais pas de petite monnaie, hein, j'avais pas les 3 750 €, et puis pourquoi pas des centimes aussi. Non, mais franchement, entre vous et moi, M. Cabron, je vous prends témoin, 6 ans de procédure pour me demander une somme que je me fais en 10 minutes de conférence au Qatar. Mais quelle perte de temps, d'énergie, tout ça pour me demander quoi ? 3 750 €, c'est la moitié de l'argent de poche de ma fille. Hein, j'espère que la procureure ne fera pas tôt la tête parce que, franchement, c'est peut-être mal poli. Les billets sont un peu chiffonnés.
Ah bon ?
Mais oui, je les avais oubliés dans mon pyjama quand je l'ai passé à la machine. Et des fois, je suis distrait, vous savez. J'ai toujours un peu de liquide sur moi, on ne sait jamais.
Oui, merci, monsieur Sarkozy. En fait, on a de nouvelles infos. Et puis, l'autre info, c'est l'équipe de France, on en parlait, qui affronte la Hongrie demain. Didier Deschamps, vous avez pas mal de solutions en attaque, Didier Deschamps.
Oui, effectivement. Bon, on compte sur, puisque vous voulez tout savoir, M. Béliard, sur le jeune défenseur Willy Orban, ou le capitaine Adam Szalai, qui sont, franchement, je pense à surveiller.
Mais attendez, ils sont dans votre groupe, hein ? Mais ça ne me dit rien, ça, ces noms-là.
Non, ils ne sont pas dans mon groupe, ils sont dans le groupe hongrois. Non, mais je vous explique, c'est cohérent. Comme les Allemands, ils avaient marqué à notre place, bon, j'ai cherché qui avait le niveau pour faire de même en Hongrie. Bon, mais voilà. Vous savez, c'est quand même beaucoup plus pratique que nos adversaires marquent à notre place. Hein. C'est moins fatigant pour les organismes de nos joueurs. Et puis, comme ça, on peut les garder bien frais pour les matchs importants. C'est important, vous savez, de pratiquer une forme de rotation.
Comme vous dites. Olivier Véran a annoncé hier que les boîtes de nuit devraient rouvrir à la mi-juillet. Une nouvelle qui doit réjouir un secteur sinistré. On va en parler avec le ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Oula.
Oui.
Bienvenue au Purple Flash. Pour cette grande réouverture, on accueille nos VIP, Madame Julie, Monsieur Béliard. On vous rappelle que vous assistez à la grande Covid Adios Party. C'est la fête de la reprise économique. On va vous faire gagner, bien sûr, des t-shirts du MEDEF, des déjeuners VIP avec les membres du conseil d'administration de la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI. Tout à l'heure, nous recevrons les pinces du disco et de la bourse de Francfort, Helmut Kohl and the Gang. Allez, c'est parti.
Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire, avec ce micro-là? Qu'est-ce que vous faites?
Pardon, vous m'avez entendu? Non, j'étais en train de... J'étais en train de discuter des protocoles d'indemnisation avec un gérant de discothèque. Et puis j'ai vu la cabine du DJ, et franchement, jeune, j'ai toujours rêvé de faire ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai demandé si je pouvais m'essayer un petit peu. En tout cas, nous avons décidé d'une réouverture, vous l'avez compris, pour ce secteur, qui permettra à l'activité économique de redémarrer enfin. Bon, évidemment, il faudra respecter 2 mètres de distance entre chaque client, c'est une nécessité.
Mais comment les couples vont faire pour danser ensemble?
Comment ça, ensemble?
On danse ensemble, quoi, on est...
Ah, moi, en boîte de nuit, j'ai toujours dansé tout seul. Vous savez pourquoi on est censé danser à deux?
Quand même.
Moi, jamais une fille n'est venue me demander de danser comme ça à deux. C'est bizarre, votre truc, là.
Pourquoi rouvrir les boîtes de nuit avec un protocole sanitaire pareil?
Mais pour ça arrêter de leur filer de la thune, enfin. Vous savez qu'on a été très généreux, mais maintenant, c'est bon, ça suffit. C'est pas tant une décision sanitaire qu'une décision économique. Le retour à la vie normale, c'est le retour de Bruno le radin. Bruno le raisonnable, celui qui serre les boulons et qui referme le robinet à pognon. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais me faire un dernier petit plaisir. Allez, on se fait plaisir tout à l'heure. On vous passera les derniers tubes de Vanessa Paradis Fiscal, de Émile Durkheim et Images, de Sister of Bercy. Et tout de suite, vous l'attendez tous, celui qui est le directeur de la rédaction des Échos, chroniqueur d'Europe 1 et maître du disco sensuel, Monsieur Barry White.
Bonsoir à Paris, bonsoir les filles, ça va? Vive la reprise économique!
C'est vive la fête! Oh là là, mais on vous laisse. Hein. Moi j'ai bien aimé Helmut Kohl and the Gang.
Oui, ça passe. Ouais, mais Barry White, c'est
allez,
pas mal.
Barry White Nicolas aussi, c'est Barry bien. White. Cette semaine, Emmanuel Macron a décoré Édouard Philippe de la Légion d'honneur. Lors de son discours, le président a remercié son ex-premier ministre de sa fidélité, de sa loyauté. Et nos équipes étaient sur place, écoutez.
Merci à tous. Eh bien, voilà, cher Édouard, c'est un honneur pour moi de te remettre cette distinction. À toi, l'homme qui a, disons-le, si bien géré cette pandémie, toi qui as été aux manettes pendant 2 ans, et en même temps, toi qui, sans moi, ne serais rien, disons-le, je te remercie donc pour ta loyauté, car tu es loyal, Édouard, n'est-ce pas? Je suis loyal, oui. Oui. Non, mais dis-le mieux que ça, parce que là, tu n'as pas l'air convaincu. Tu as le ton de quelqu'un qui pense à se présenter en 2022. Tu es loyal ou pas? Si, bien sûr, je suis vachement loyal. Je suis vachement loyal à qui? Je suis vachement loyal à mon chien, attention, Édouard. Je peux la reprendre, la médaille, ok? Tu vas me la rendre, ton pile, tu vas me le redécoller ton veston. T'es loyal à qui? Dis-le. Non, mais je suis loyal en général. Non, je suis loyal à mon président. Donc tu répètes, je suis loyal à mon président. Je suis loyal à mon président, voilà. Je suis loyal à mon président, mon doux seigneur, répète. Et tu signes, yeah. Tu signes le papier, là, tu le signes. Je ne me présenterai pas en 2022, tu paraphes là. Et là, tu mets « lui approuvé ». Voilà, tu signes avec ton sang, voilà, comme c'est dans le cas engagé. Non mais je vais quand même pas aller jusque-là. Oh putain, mais vous avez vu, vous avez entendu, mais c'est une véritable anguille. T'as beau lui faire passer des messages subtils, lui donner des belles décorations, lui, il te file entre les doigts. Putain, je, Je le sens pas, je le sens pas. Il va me la faire à l'envers, il va me la faire à l'envers, je le sens.
Allez, remettez-vous. Merci, monsieur le président. Lundi, la SNCF appelle à la grève en Île-de-France. Monsieur Régis, vous êtes syndicaliste SNCF. Bonjour.
Oui, j'aime bien le 1 de monsieur Cabrol. Bonjour Julie, bonjour mon Laurent. Salut Mathieu, bonjour à tout le wagon. Ben voilà, c'est la fin du max, c'est la fin des restrictions. On peut ressortir, on peut à nouveau reprendre notre vie d'avant. C'est la fin du couvre-grève. C'est oui, le couvre-grève, c'est comme le couvre-feu, mais de la grève. Voilà. Bousquet vous a manqué, c'est les terrasses et les restos. Ben nous, c'est les merguez et les banderoles. Voilà.
Alors, vous manifesterez pour obtenir une hausse générale des salaires. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Pourquoi pile quand les gens ressortent? C'est un peu...
Pendant la pandémie, je ne vais pas te mentir, ma Juju. Il y a des jours où on n'a pas bossé, mais personne ne s'en est rendu compte. C'est ça le problème, et ça, c'est pas marrant pour nous. La grève, tu sais, c'est pas juste le plaisir de glander, c'est aussi le plaisir de faire chier le monde.
Et alors, grosse grève nationale le 1er juillet, c'est ça?
Voilà, les comédiens ils vont avoir leur festival d'Avignon, les musiciens... vont avoir les vieilles charrues. Ben les cheminots, ils ont la grève générale. Voilà. Nous aussi, on a droit à nos festivals d'été. Oh, mais quoi? Oh, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a, la vedette? Ben oui, c'est comme ça.
C'est comme ça, ouais. 8h56, bravo à Nicolas Canteloup et à Julie. La revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. Philippe Vandel nous a rejoint en studio. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre info média du jour va s'intéresser à Narbonne. Vous allez me dire pourquoi Narbonne? Car derrière cette ville, petite ville d'une 50 000 habitants du sud de la France, se cache la seconde Rome. C'est le titre d'un documentaire exceptionnel sur Arte. Vous allez voir des images stupéfiantes. On en parle avec son réalisateur Alain Tixier. Au sommaire également, Camille et Images. C'est la nouvelle émission de Camille Combal qui démarre demain samedi sur TF1. On sera avec Fabrice Bailly, le directeur des programmes et des acquisitions de la chaîne. Il va nous parler de ce programme et de la grille d'été. Et puis il a fondé l'Orchestre National de Lille il y a des années et des années. Le grand chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, 85 ans, il en paraît 15-20 de moins. Et notre invité, il va diriger le concert de clôture du Lille Piano Festival, c'est ce week-end, et c'est lui qui a fondé ce festival également.
C'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1. Demain, après-demain, le week-end, c'est Pierre de Villeneuve qui vous réveille bien sûr. Je reviens en direct lundi matin dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.